Notre Dieu et Père, nous te louons parce que, Seigneur, non seulement tu nous as donné ton esprit pour ne pas que nous soyons orphelins, mais que tu serais avec nous tous les jours, Seigneur. Merci de pouvoir communier avec toi par ton esprit. Merci, Seigneur, parce que tu te manifestes aussi dans la beauté de la création que nous pouvons admirer, alors que nous sommes en vacances aussi, de toutes ces belles choses que tu as fait, Seigneur, manifeste ta gloire. Et Seigneur, nous te remercions pour ta parole, et pour Jésus qui a incarné cette parole, qui l'a vécue complètement, absolument. Seigneur, merci pour cette parole aussi que nous pouvons ouvrir ce matin, parce que tu as dit que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Et nous te louons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous ai promis, mais vous savez, je suis pas toujours très constant dans mes promesses au moment, enfin, précisément, je veux dire, c'est promis, je vous le fais, de continuer l'étude sur l'idolâtrie, sur les 10 personnages. Hein. Mais entre-temps, j'ai vraiment eu à cœur, en tout cas ce matin, de vous parler d'une question d'actualité. Et ça tombe bien parce que je ne savais pas ce que Solange a déclaré ce matin, qui était absolument abject de la part du gouvernement, mais voilà, de mettre dans des épreuves de bac cette question avec ce dictat. Mais bon, c'est une réalité. Et donc, je voulais vous parler de la théorie du genre. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est dans les cartons, qui semblerait être à l'épreuve, enfin, pas à l'épreuve, mais au programme de la rentrée des écoles. Ça travaille, donc on prie pour ça. Hein. Donc c'est aussi important pour vous d'en être conscient et puis de pouvoir prier là-dessus. Parce que le gouvernement veut absolument passer en force un tas de choses qui changeront fondamentalement notre société. Rassurez-vous, c'est pas qu'en France, hein, c'est dans le monde. C'est une sorte de complot mondial, hein, mais on sait qui en est à l'origine derrière. Hein. C'est le malin. Mais il faut bien être conscient de cela. Hier, on était à mariage de Hans et Caroline, en Normandie. Et puis, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais suffisamment de temps pour parler avec le père de Hans, donc Franck Meyer, qui est actuellement le président du CPDH et qui est aussi porteur des maires de France. Et dans sa sacoche, il avait 20 000 signataires de maires. Je crois qu'il y a un écho, non ? Ça vous dérange pas, non ? L'écho, non ? Enfin, vous dites aussi. Il est porteur de 20 000 signataires de maires qui refusent de marier des couples homosexuels. Mais ceci étant, le gouvernement n'a pas permis la clause de conscience. Une clause de conscience, ça permet au maire, s'il n'est pas d'accord, de passer la main à quelqu'un d'autre. Ça peut être un fonctionnaire de l'État, peu importe. Ça ne va pas passer. Et non seulement ça ne va pas passer, mais le Premier ministre a envoyé à ses préfets une circulaire comme quoi il devait dénoncer même les maires qui ne seraient pas d'accord. Donc vous voyez, ça va jusqu'à la délation et qu'il prendrait des mesures très très fortes. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit, mais vous voyez, ça peut aller jusqu'à la prison, quoi. Donc vous voyez, on est dans un régime de dictature sur l'éthique, sur ce qu'on doit croire et ce qu'on ne doit pas croire. Vous voyez. Donc on est quand même dans une société qui évolue très très vite vers de la dictature pour nous obliger à nous rentrer dans un moule. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que vous connaissiez ce que la Bible dit de ces choses-là, et pas simplement ce qu'on pense ou voilà notre sagesse personnelle. Qu'est-ce que la Bible dit du genre ? Qu'est-ce que c'est que le genre ? Alors, je peux vous dire tout de suite que la société actuelle veut passer effectivement l'idée qu'il y a trois types de personnes. Il y a un homme, il y a une femme, et il y a une personne neutre. Personne neutre. Vous connaissez la personne neutre ? Voilà, donc c'est ça qui va être inscrit dans la législation et dans les textes et ce qu'on va enseigner aux enfants. Une personne neutre, Voilà, moi je suis neutre, je suis ni homme ni femme, je suis neutre. Ouais. Donc ça c'est la nouvelle conception, hein. Et c'est une conception tout simplement qui est bien sûr, disons, soutenue par les loges maçonniques qui veulent une religion universelle, qui soit universelle pour tout le monde. Donc ils veulent coller, si vous voulez, à des réalités. Il y a des gens qui se sentent neutres parce qu'ils se sentent ni homme ni femme, hein, on appelle ça androgyne, et ils veulent avoir un espace bien de légalisation de leur statut. Voilà. Alors, ce qui fait qu'on ne regarde plus à ce que produit, ce que Dieu a fait dans la nature, parce que ça fait longtemps qu'on Dieu on l'a mis de côté. On ne regarde plus ce que dit l'Écriture. On regarde ce qu'on voit autour, et on essaye de modeler les lois sur ce qu'on voit autour. Ce qui fait qu'on embrasse bien sûr les maladies, les déviances de toutes sortes, si vous voulez, et on les légalise, voilà, pour que tout le monde soit à l'aise, pour qu'on n'ait pas besoin de traiter le problème. Vous voyez, traiter le problème, c'est trop compliqué. En plus, sans Dieu, on sait qu'on n'y arrive pas. Donc, du coup, on baisse les bras et on essaie de légaliser pour que tout le monde se sente à l'aise. La devise liberté, égalité, fraternité, qui est une devise maçonnique, qui est l'emblème de la France, eh bien, effectivement, c'est ça qui est le moteur, c'est ça qui est la motivation de cette légalisation pour que tout le monde soit libre. Vous voyez, tout le monde soit libre, parce que c'est vrai que les homosexuels se sentent pas libres, ou les lesbiennes, etc., dans ce qu'ils font, donc ils veulent être reconnus, donc il faut légaliser. Ensuite, il faut l'égalité, parce qu'effectivement, s'il y a une inégalité, il y a des gens qui critiquent les autres, etc. Voilà, donc si on veut une société qui soit bien, où il n'y ait pas de conflits sociaux, voilà, donc ça part toujours de points de vue qui sont louables, si vous voulez, hein. Sauf que on prend pas les causes réelles qui sont à l'origine des problèmes. Puisqu'on veut ignorer les problèmes, on les embrasse. Et du coup, l'égalité absolue, effectivement, une personne neutre va se trouver admise au même titre qu'un homme et qu'une femme. Vous voyez, donc l'intention est bien, hein, mais comme dit un dicton, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce qui est important, c'est pas l'intention. C'est est-ce que nous sommes en phase avec la réalité de ce que Dieu a créé ou pas ? C'est ça la vraie question, vous voyez ? Et c'est ça qu'en tant que chrétiens, nous devons nous poser. Et bien sûr, fraternité, bah, tout le monde finalement est frère, et tout le monde est frère et sœur, et tout va bien. Et puis les citoyens du monde vont s'embrasser, vont faire des farandoles, et tout va bien. Vous voyez, c'est un monde de bisounours, mais malheureusement, ça se passe au niveau politique, donc ça commence à être un peu inquiétant. Et des gens se mettent en colère si jamais vous dites le contraire, hein, et qu'on vous sanctionne même au bac. Voilà. Donc voilà où on en arrive. Tout simplement, c'est l'idéal républicain, l'idéal d'une société où tout le monde se trouve bien. Voilà, c'est ça, l'idéal républicain. Alors, il y a deux façons. Il y a cette façon de voir. Là, il y a la façon donc du monde, et la façon chrétienne. Voilà, donc il y a la façon du monde et la façon chrétienne. Donc la façon du monde, hein, la théorie du genre, hein, c'est de dire qu'il y a un homme, il y a une femme, et il y a une personne neutre. Voilà, c'est une personne neutre. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle dit ? Comment est-ce que la Bible décrit les genres ? Il y a... Oh, mais je vais peut-être prendre l'autre micro. Parce que... Vous savez ce que la Bible dit sur le genre, hein ? Donc on est dans le genre. Ok ? Qu'est-ce que dit la Bible ? Dieu créa l'homme et la femme, c'est la Genèse. Alors, je vais un peu vous déstabiliser, c'est vrai, mais en fait, il enseigne quelque chose de plus élevé que l'homme et la femme, qui est un aspect sexué. La Bible enseigne le genre masculin et féminin. Ouais.
Ça c'est le genre. Sachant que, bien sûr, on a la correspondance du genre qui est la femme, hein, qui est Isha. Et masculin, l'homme qui est Ish. Attends. Isha. Ah, pourquoi je vous dis que le genre est plus important? Alors ceux qui lisent C.S. Lewis ou Lane Payne sont tout à fait en phase avec ça. Je m'inspire beaucoup aussi de leurs enseignements. C.S. Lewis, c'est un des plus grands théologiens du XXe siècle et qui a beaucoup apporté à la compréhension théologique de l'existence humaine. Et on voit que le féminin, le masculin n'est pas simplement un homme, une femme qui est incarné dans la glaise, si vous voulez, dans la glaise, puisque Adam, ça veut dire glaise, hein, ça veut dire de la poussière. Dieu a pris de la poussière, il a fait un homme et une femme, on est un être créé. Mais le féminin, le masculin, se trouve déjà en Dieu. C'est déjà une notion qui est en Dieu, et qui est dans toute la création. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu a créé cette notion de genre féminin masculin ? Tout simplement parce que, si vous voulez, l'amour, parce qu'ici, c'est l'amour, hein, qui est à la base de ce que Dieu a créé. Hein. Okay. Ça, c'est l'essence qu'il faut comprendre. Alors qu'ici, dans le monde, c'est la connaissance. Enfin, en grec, ça s'appelle gnosis, connaissance. C'est la connaissance. Et tous ceux, et en particulier la République dans laquelle nous sommes, qui est remplie de francs-maçons, c'est la connaissance. Il faut connaître. Voyez, et quand vous connaissez, eh bien, vous pouvez effectivement transformer la société, transformer le monde. Et donc tout est basé sur la connaissance. Et donc il faut beaucoup de connaissances. Hein, beaucoup, beaucoup de connaissances. Il y a ma sœur, là, Christiane. Son mari, maintenant, elle est divorcée, mais qui est au sommet de la franc-maçonnerie. Et il faut beaucoup, beaucoup de connaissances. Ils apprennent énormément au niveau des symboles et tout ça. Donc ça, c'est la connaissance. Ici, c'est l'amour. Deux choses différentes. Et la connaissance enfle, rend orgueilleuse, et l'amour édifie. Amen. Dans l'amour, si vous voulez, combien il faut de personnes pour exprimer l'amour ? Pardon ? Deux ? Deux ? Pourquoi tu dis au moins deux ? Oui ? Donc il peut amener trois. Voilà. C'est pour ça que Dieu est trinitaire. Si vous voulez. Il y a trois personnes en Dieu. C'est ce qu'on appelle la Trinité. C'est particulier à l'enseignement chrétien. C'est la seule religion où il y a un Dieu en trois personnes. Vous trouvez une multitude de divinités dans les religions en général. Vous trouvez à la limite un dieu Bouddha, enfin, c'est pas un dieu, c'est une sagesse. Mais un dieu trinitaire, ça n'existe que dans le christianisme. Et c'est à dessein. C'est à dessein. Parce que en Dieu, il y a déjà la notion de ces trois personnes, hein, qui s'aiment, hein, et qui ont une relation. Qui ont une relation entre eux. Regardez la relation très étroite entre Jésus et son Père. Jean 17, enfin tout l'évangile, relisez, vous voyez cette proximité de Jésus avec son Père. Et c'est ça le grand enseignement du Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament. On voit Jésus qui communique avec son Père dans une intimité tellement profonde qu'il ne fait rien que ce qu'il voit faire au Père. Et ainsi, il fait des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires, parce qu'ils le font dans l'amour. Et le problème, c'est que s'il n'y avait que deux, qu'est-ce qui se passerait ? S'il n'y avait que le Père et le Fils, qu'est-ce qui se passerait ? T'as une idée ?
Ah, je peux une épreuve du bac. Hein.
Juste l'interaction. C'est juste de l'interaction. Oui, c'est un truc très simple, hein. Sur le plan psychologique, vous avez déjà entendu parler de ça. Quelqu'un qui a une idée, non ? Oui, alors il faut aller un peu plus loin, et tu vas trouver. En fait, est-ce que vous avez entendu parler de l'amour fusionnel ? Non ? Jamais ? C'est quoi l'amour fusionnel ? Ah, tu sais pas. L'amour fusionnel, alors, je suis désolé, hein, je suis pas psychologue, donc je peux pas bien l'expliquer, j'ai pas prévu de répondre à ces questions, mais voilà, j'ai essayé de vous le dire comme je le comprends. L'amour fusionnel, c'est que je suis, d'un seul coup, je t'aime, et c'est tellement fusionnel, ouais, c'est tellement, voilà, qu'on n'a même pas besoin de se parler, c'est un peu comme une rencontre mystique, mais du coup, plus rien autour ne compte. Plus rien autour ne compte. Ouais. Amour fusionnel. Il y a des gens, hommes ou femmes, hein, qui ont des amours fusionnels. Et ça, c'est pathologique. Enfin, disons que ça crée... Pardon ? C'est une petite mort, oui. Bon. Voilà, on pourrait faire de l'enseignement là-dessus, mais je ne suis pas compétent pour le faire. En réalité, le véritable amour, c'est au moins trois. Au moins trois. Pour pas qu'il y ait d'amour fusionnel. C'est un amour don, vous voyez, où à chaque fois... Il y en a un qui ne s'attache pas exclusivement à l'autre, mais qui est ouvert à aimer une autre personne. Donc le minimum, c'est trois. Et vous voyez le Saint-Esprit, regardez le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit que connaît moins que Jésus ou le Père. Mais le Saint-Esprit, c'est cet amour, c'est cette personne qui prend ce qui est à Jésus pour nous l'apporter et qui le redonne. Vous voyez, c'est pas le Saint-Esprit prend pas tout sur lui. Il est le paraclet, il est le consolateur, il est celui qui prend et qui transmet, mais sans se mettre en valeur. Vous voyez, parce qu'il prend quelque chose qui n'est pas à lui et que Jésus redonne au Père. Vous voyez, toute cette dynamique, voilà, de trois personnes au minimum. Et ça, c'est le véritable amour que Dieu nous donne comme modèle. C'est pour ça que la Trinité, et bon, il y a un petit livre, je pensais l'avoir donné à Mélida, et je vais fermer un coup de pain parce que je l'ai pas fait, j'en ai donné qu'à deux. Ce livre m'a beaucoup inspiré, qui est une nouvelle expérience de Dieu, qui est basée justement sur cette compréhension du Dieu trinitaire, qui change complètement le point de vue quand on l'a compris. Voilà. Donc il y a en fait deux pôles, qui, comme Dieu, comme le Père et le Fils, alors j'ai perdu. Oui. Il y a deux pôles, et il y a un troisième, c'est ce qu'on appelle la corde à trois brins. Hier, on a parlé au mariage, hein, où il y a effectivement l'esprit de Dieu. Donc il y a la femme, l'homme. Après, il y a des applications, hein, des applications de la Trinité, et des applications, dont le mariage. Hein. Dans le couple, il y a l'homme et la femme, hein, qui s'unissent, mais qui s'unissent à Jésus, au travers de l'Esprit, et qui fait cette corde à trois brins. Et donc, ça permet d'avoir une complémentarité. L'homme et la femme ne sont pas fusionnels entre eux, ils sont en communication avec l'Esprit, avec Jésus, qui est au centre. Et donc, il y a une communication sans arrêt. C'est pour ça que, hier, le pasteur bon escient a dit à Hans, Caroline, voilà, je vous remets une Bible, vous en avez déjà, mais celle-là, vous la lisez ensemble, vous en parlez ensemble, vous l'étudiez ensemble, vous voyez, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Avec Michel, on a passé des heures, des jours, des années à faire, on continue à le faire, hein, mais moins qu'au départ, parce que c'est le fait de manière plus informelle, à faire les choses ensemble, à lire ensemble la parole, à méditer ensemble, etc. Pour que l'esprit soit toujours présent, qu'on ne soit pas focalisé sur nous, sur notre amour, oui, exclusif, mais sur un amour qui s'ouvre vers les autres. Voyez. C'est donc au minimum ces trois brins qui sont constitués avec Jésus, avec son esprit. Mais pour revenir à ces deux pôles se retrouvent dans toute la création. Dans toute la création, vous trouvez des pôles, que ce soit dans toutes les sciences physiques. Il y en a qui connaissent les sciences physiques. L'électricité, par exemple. Vous connaissez les pôles ? Sur un accu, il y a deux pôles, plus et moins. Hein, vous les mettez ensemble, votre accu, il est mort. Hein, c'est un court-circuit. Dans toute la création, il y a deux pôles. Et pourquoi est-ce que Dieu a créé ces deux pôles ? Il y a une raison à cela. D'une part, pour que l'amour fonctionne, mais bon, en physique, je ne pense pas qu'il y ait l'amour qui fonctionne dans la cul. Mais il y a une autre raison, et c'est ce que dévoile ce livre pour ceux qui veulent le lire, hein. C'est une créativité. C'est une créativité. C'est une polarité, une bipolarité de ce genre-là, ça crée une créativité. Est-ce que Dieu est créatif? Oui. Est-ce que vous voulez que l'homme soit créatif? Hein? Quand il n'y a pas de créativité, hein, c'est... Wow, c'est morne, la vie. Hein? Hier, papa de Hans a dit « Ah, mon fils, il a 3 idées à la seconde. » 3 idées à la seconde, ça fait beaucoup. Hein? Bon, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui a 3 idées à la seconde. Là, c'est le témoignage du père de Hans. La créativité, c'est formidable. Enfin, moi, j'aime la créativité. Hein? C'est pour ça que j'ai fait de l'aéronautique pour aller dans le ciel. Mais la créativité, c'est quelque chose qui donne la vie. Voyez-vous? Et regardez Dieu dans la nature, comme il est créatif. Et à chaque fois, il y a 2 pôles. Il y a un pôle qui se pollinise sur l'autre, etc. Enfin, vous avez l'aspect androgyne, hein, qui est imaginé par le monde, qui est neutre, voilà. Ça n'existe pas. Hein. Ce qui existe, c'est l'hermaphrodisme. L'hermaphrodisme, par exemple, les gastéropodes, les escargots, bon, ils peuvent se reproduire eux-mêmes. Mais au niveau des hommes, ça n'existe pas. Hein. Sauf s'ils vont créer un monstre. Hein. Ils sont capables de tout, hein, maintenant. Et un monstre hermaphrodite, bon, pourquoi pas, certainement ils y ont pensé. Voilà, enfin, n'essayons pas d'imaginer le pire, parce qu'il y en a déjà assez comme ça, mais pour dire que ça n'existe pas, l'hermaphrodisme, Dieu n'a pas créé ça, au niveau de l'être humain. Parce que ça revient à une sorte de fusion qui ne crée pas d'amour, et qui n'a pas de créativité, c'est stérile. Ouais. Chez les Grecs d'ailleurs, ils considéraient que toutes ces notions étaient stériles, ça ne produisait rien. Rien de valable. Donc, pour revenir à ces 2 pôles, qui sont les gendres, féminin, masculin, qui n'est pas lié à l'homme ou à la femme particulièrement, mais qui est appliqué à l'homme et à la femme dans la création humaine. Eh bien, ces 2 pôles, quand ils fonctionnent, et particulièrement dans un couple, ça vous pouvez l'appliquer pour vous, ils créent, eh bien, une créativité quand les 2 pôles, eh bien, marchent en semble, quand il y a un échange entre l'homme et la femme, entre le masculin et le féminin, quand il y a un échange, il en sort une créativité formidable. Et c'est ça que nous, dans l'Église, on veut. Quand on dit on veut des familles dignes dans l'excellence, eh bien on veut déjà qu'au niveau du couple, il y a cette complémentarité, cette créativité qui existe, et donc que chacun trouve son identité dans ce qu'il est, dans son rôle, dans son gendre, dans son genre masculin-féminin. Alors, c'est un peu plus compliqué que ce que je vous explique, parce que en chacun de nous, nous avons un côté masculin-féminin déjà. Qu'est-ce que ça veut dire, le côté masculin? Quel est le rôle? Alors, je reviens à l'être humain. Quelle est la particularité de l'aspect masculin dans Adam, dans le rôle du masculin au niveau de l'être humain? Qu'est-ce que vous pourriez définir comme particularité? Défendre la famille? La défense de la famille? Conduire la famille? Être fort? Être responsable? Voilà, c'est le côté masculin. Initiateur, tout à fait. Gestionnaire, tout à fait. Représenter Dieu dans la famille. Voilà. Alors, je vais vous donner ce que C.S. Lewis en pense, parce que moi, je ne suis pas théologien, mais je m'appuie sur des gens qui ont des ministères dans ce domaine. Alors, je vous donne la définition de C.S. Lewis. C.S. Lewis disait « Spirituellement, il devrait y avoir un homme en chaque femme et une femme en chaque homme. Combien sont affreux ceux qui n'ont pas cette complémentarité en eux. Je ne peux pas souffrir un homme qui n'est que masculin et une femme qui n'est que féminine. » Voilà. Alors, ça c'est la définition. Ensuite, après les rôles et la fonction. Ce qu'il dit, et ce que Leanne Payne aussi représente de manière synthétique, après on peut passer beaucoup de temps sur ces sujets-là, c'est que l'homme est celui qui doit dire et être la vérité. La vérité, c'est ce qui doit caractériser le masculin. Alors la vérité, c'est l'aspect réalité aussi. Hein. Réalité, vérité, c'est la même chose. Dieu a créé une réalité, la création. Et il faut que le masculin soit en contact avec cette réalité, avec cette vérité. Jésus a dit « Je suis la vérité. Jésus était masculin dans son ministère, dans son approche. Il était, et le mot, je crois que c'est en grec que ce mot est utilisé, c'est le mot viril. Viril, c'est utilisé pour l'aspect masculin. Vous avez entendu parler de virilité, de vertu, pour les Romains, la vertu était le plus important pour les soldats. La vertu, la virilité, ça c'est masculin. C'est-à-dire, c'est savoir prendre des décisions à bon escient. C'est-à-dire dans une réalité qui n'est pas une réalité illusoire, qu'on connaît la réalité, on prend des décisions qui sont adaptées à la réalité, qui ne vous déçoivent pas après. Alors, c'est dans le domaine de la protection, c'est dans tout ce que vous avez cité qui est très bien. Mais la notion de masculinité, c'est pas le machisme. Vous voyez, quand on a perdu le masculin tel que Dieu l'a créé, on tombe dans des excès de masculin. L'excès de masculin, c'est le machisme. Moi, je suis plus fort, moi, je suis. Quelqu'un qui est masculin est très très humble. Très très humble. L'humilité caractérise la caractéristique de la masculinité, mais dans une décision qu'il est capable de prendre, qui correspond à la réalité, à la vérité, de dire et d'être la vérité. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas confirmés dans leur identité masculine, et ça, c'est quelque chose qui se passe en adolescence, pour une femme ou pour un homme. Une femme peut prendre des décisions, vous êtes d'accord avec moi, qui sont en accord avec la réalité. Voilà. Et ça, c'est un aspect masculin. Mais quand on n'a pas son véritable identité, quand on n'a pas reçu de la part des parents, eh bien, on a du mal. On est hésitant dans sa personnalité. On est hésitant, on ne sait pas trop. Voyez, et du coup, on peut tomber dans l'excès. L'excès du masculinisme qui est d'être machiste. Hein. Voilà. De prendre des décisions, c'est pas ça. C'est pas, ah, je décide de prendre des décisions. Je prends une décision qui est adaptée à la réalité. Vous voyez, c'est ça. Le côté masculin qui est juste, qui est selon la vérité. Le côté féminin, comment vous définiriez le côté féminin? Quelles sont les caractéristiques de l'aspect féminin de la personne humaine que Dieu a créée, qui se trouve en Dieu? Pardon? Oui, tout à fait, ça c'est une particularité du féminin, c'est l'intuition. La particularité du masculin, c'est l'analyse. C'est découpé en morceaux, c'est ce que les hommes ont fait en science, tout découpé. Après, on a un problème parce que maintenant, il faut la systémique pour tout remettre en place. Voilà. Mais la capacité du féminin, c'est globaliser, de sentir. Voilà, les femmes sentent. Moi, souvent, je me prenais le bec avec ma belle-mère, qui était une femme de prière. Elle me disait, oui, je sens, là, sur le plan spirituel. Je dis, oui, mais attends, explique-moi. Ben, non, je sens. Je dis, attends, moi, il faut que je m'explique, moi, il faut que je comprenne. Voilà. Bon, elle était féminine. Bon, depuis, le Seigneur m'a travaillé, je commence aussi à sentir les choses. Voilà. Bon, je le sentais avant, mais j'étais coupé de cette capacité. Alors, féminin, je vous écoute. Encourage. Pardon? Oui? Oui. Pardon? La passion. C'est pas particulier en féminin, c'est pour les deux, mais pourquoi pas. Alors, je vous écoute. Pardon? Voilà. Ça, c'est la bonne réponse. En fait, c'est la réponse. La capacité, enfin, le féminin, c'est la réponse. Allô? Ça vous dit quelque chose? C'est de répondre. C'est de répondre au masculin, vous voyez? C'est ça, l'esprit de Dieu. C'est que, si vous voulez, une créativité, hein, parce que j'ai dit que de là, de ce mécanisme qu'on appelle une bipolarité créatrice, hein, qui est en Dieu, les deux pôles, eh bien, va sortir la créativité. Eh bien, elle ne peut sortir que s'il y a une réponse à un appel, à une initiative. Okay? Donc le masculin a l'initiative et le féminin répond. C'est la réponse. D'avoir une bonne réponse, oui, de répondre. C'est la capacité d'obéir, c'est la capacité de soumission. Alors, vous voyez tout de suite que les hommes ont profité de ça, hein, pour soumettre à la femme. Et c'est pour ça maintenant, on est dans le 21e siècle, et je vous signale qu'on est dans le siècle du matriarcat. Les choses se sont inversées. Hein. Voilà. Parce que, effectivement, les femmes en ont eu trop marre hein, et elles sont rentrées dans le féminisme et, hein, et veulent faire tout comme les hommes. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre, c'est quand les choses sont à leur place. Hein. Rappelez-vous, Jésus a dit que chaque chose doit être à sa place. Et c'est Christ qui est le centre. Si on est centré sur Christ, on peut tous être à notre place. Mais s'il y a de l'excès, eh bien, il y a simplement réaction. Le féminisme, c'est une réaction aux excès. Revenons au féminisme, au féminin. Au féminin. C'est une réponse. La capacité de répondre. De répondre de manière adaptée, de manière juste, de manière conforme à la réalité. Alors, effectivement, quand le masculin n'est pas bien en place, le féminin a du mal à répondre correctement. C'est pour ça que nous, on cherche dans l'Église, un des objectifs, c'est d'avoir des familles dignes dans l'excellence. Et ça commence par les couples. On va chercher à aider les couples à établir cette juste relation dans le féminin et le masculin pour que la créativité puisse s'opérer. Et ça, c'est la transformation que Jésus veut faire en nous. C'est-à-dire que chacun, nous sommes dans notre véritable identité. Identité masculine, identité féminine, sachant que nous avons tous un peu de masculin, un peu de féminin en nous. Voilà, donc le féminin, c'est la capacité de répondre. C'est pourquoi, vous comprenez que Éphésiens 5, 12, c'est quoi Éphésiens 5, 12 ? De quoi ça parle ? Pardon ? Non, c'est 6, 12 ça. 5, 12, c'est... Pardon ? Non, oui, c'est la relation entre Jésus et l'Église. La relation entre Jésus et l'Église. Bon, bah, c'est une application de ce que je viens de vous dire. Jésus et l'époux. Vous êtes d'accord ? Et l'Église et l'épouse. Oui. Jésus ne sera jamais l'épouse. Jésus sera toujours l'époux. Voyez-vous ? Il y a le côté masculin, le côté féminin. Le côté masculin, Jésus, qui est-ce qui a pris l'initiative de nous sauver ? C'est nous ? Bon, vous voyez, c'est Jésus. Jésus a réalisé le côté masculin que Dieu a créé pour créer de l'amour et de la créativité. Et donc, Jésus est toujours l'époux. Et nous, l'Église, y compris les hommes, hommes et femmes, vous voyez, c'est pour ça le genre va plus loin que le sexe. Hein. Le genre, c'est une notion qui est une caractéristique de la création de Dieu. Et donc, l'Église que nous sommes féminins. Et dans cette féminité que nous devons exprimer, c'est une bonne réponse à Jésus. Voyez, répondre à Jésus, répondre à sa parole, répondre à son appel, répondre à ses exigences, répondre à son attente. Voyez. Et comme il y a une caricature de l'obéissance à cause du péché, à cause du machisme et du patriarcat en particulier, qui s'est mal établi, mal exprimé, eh bien il y a une réaction, mais une essence. Par exemple, une essence en physique, enfin, etc., on ne l'exprime jamais par son contraire. On l'exprime par ce qu'elle est. Voyez-vous ? Or, les hommes ont tendance à toujours expliquer les choses par leur contraire. Voyez-vous ? Et c'est le principe de la gnosis. Ça y est, j'ai des trucs qui ne marchent plus. Comme la gnose, c'est-à-dire la connaissance qui est utilisée ici par le monde, hein, connaissance, y compris, hein, et, y compris, et, je dirais, plus vous rentrez dans les échelons maçonniques, plus vous utilisez l'occultisme, parce que l'occultisme, c'est justement la science des sciences. Vous voyez ? L'ésotérisme, c'est la science des sciences parce que vous faites appel aux puissances célestes. Hein, vous faites appel aux puissances invisibles. Et donc, vous avez une connaissance encore plus grande. Voilà. Et donc, plus vous montez, plus vous êtes amené à utiliser les maîtres invisibles pour vous aider dans la connaissance. Mais cette connaissance, eh bien, est contre la révélation. Ici, on est dans le cadre de la révélation. Révélation de la parole de Dieu. Okay. Donc révélation, si nous on a la révélation qui est cette parole, eh bien, nous on s'appuie sur cette révélation. Okay. Ceux qui s'appuient sur la connaissance coupée de la révélation, ils s'appuient sur leur raison, sur leur intelligence. Okay. Et vous savez ce que Dieu pense de la raison, de la sagesse humaine? Bah, lisez 1 Corinthiens. Hein. Ce n'est que la folie. Pourquoi? Parce qu'on raisonne avec le péché. Et donc, on veut, en dehors de Dieu, comprendre les choses que Dieu y a faites. Et que nous, nous sommes juste une petite fourmi dans cette connaissance. Vous voyez, c'est de la folie. C'est de la folie. Et pourtant, l'homme se croit suffisamment orgueilleux pour faire ça. Et donc, il est dans une connaissance qui lui amène à décrire des bêtises comme ça, hein, qui vont être inscrites dans nos constitutions et dans nos livres scolaires. Donc, il faut résister. Il faut résister, mais il faut connaître la parole. Il faut connaître les principes de la parole. Vous voyez ? Parce que sinon, on est un petit peu... On va réagir bêtement. Parce qu'en fait, on ne pourra pas répondre correctement à ces objections. Et il faut répondre intelligemment à ces choses-là. Parce qu'il faut aimer ces gens-là, parce qu'ils ont besoin de Jésus. Mais en même temps, on ne peut pas les approuver, puisqu'ils sont dans l'erreur. Définir l'identité masculine, féminine, paternelle ou maternelle, ce n'est pas appauvrir un genre au détriment de l'autre, c'est d'explorer l'identité sexuelle sans peur d'être spolié ou diminué. Cette subtilité existe, ce que C.S. Lewis nous dit, dans notre vie avec Dieu. Dieu est père, avec des entrailles de mère. Et dans le même temps, avec Dieu, nous sommes hommes et femmes dans un rapport d'épouse à époux. Et Dieu est l'époux et jamais l'épouse. C'est la raison pour laquelle, en tant que chrétien, c'est dans notre rapport à la paternité de Dieu, en nous reconnaissant fils et filles de Dieu, que nous sommes vraiment établis dans notre identité sexuelle ou guéris de ce qui a pu la blesser. Et nous avons besoin de cet état pour notre vie spirituelle s'enrichisse d'une relation d'épousailles avec Dieu. Lorsque nous ne sommes pas vraiment établis dans notre personnalité masculine, pour un homme ou féminine, pour une femme. Une fois de plus, dans le féminin, il y a aussi, enfin dans une femme, il y a aussi une part de masculin. Elle sait prendre des décisions, en particulier si elle est célibataire. Parce que ça renvoie à l'image de Dieu. Dieu est trinitaire, comme on l'a vu. Dieu est Père, Fils, Esprit. Il est créateur, il est rédempteur, il est Seigneur. Et donc dans cette complémentarité qui est alimentée par l'amour et qui a une création, nous sommes à son image. Okay, nous le sommes indépendamment en chaque personne, parce qu'en chaque personne il y a du féminin de l'humain et de l'esprit. Je parle des chrétiens. Quand on n'est pas chrétien, on ne peut pas être à l'image de Dieu. Pas possible. On l'est potentiellement. Mais on le devient quand on reçoit l'Esprit de Dieu, quand on accepte Dieu dans nos vies. Là, on devient à l'image de Dieu. Et ça, c'est toute l'histoire de la chute. Hein. La chute, on a perdu l'image et on va la retrouver. Et c'est toute la quête du monde, hein, de toutes ces loges secrètes. Ils cherchent à retrouver le paradis perdu. Mais on le retrouve quand Jésus. C'est Jésus qui nous, Jésus par son Esprit, nous unit. Donc, que ce soit un homme tout seul, une femme tout seul, ou encore mieux, un couple. Et ça, c'est la puissance, c'est le mystère. Paul dira, c'est un mystère, hein, l'homme, le mariage. C'est un mystère. Mystère, ça ne veut pas dire mysterium, où il faut chercher, comme le font ici ces gens-là, par la connaissance, des choses cachées. Il n'y a rien de caché. Dans le mystère, quand Paul utilise le mot mystère, il n'utilise pas la notion philosophique grecque, il l'utilise au sens où il y a des choses qui étaient cachées pendant un temps, qui se sont révélés. Et tout s'est révélé en Jésus. Les mystères qui étaient cachés dans l'Ancien Testament et qu'on ne pouvait pas imaginer ou que les gens ont vu par la foi, comme Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, etc., eh bien, se sont révélés en Jésus. En Jésus, nous avons la révélation de ces mystères. Et un couple chrétien qui vit pleinement, non pas simplement dans son intelligence, hein, là je parle d'une expérience, une expérience de Dieu. Et c'est l'objet de ce livre aussi, expérimenter Dieu. Quand on expérimente la présence de Jésus par son esprit en nous, dans le couple quand on est marié, eh bien on devient à l'image de Dieu. Et le fonctionnement qui se produit, c'est un fonctionnement qui devient créatif. C'est pourquoi tous les couples chrétiens, tels que je viens de l'indiquer, sont créatifs. Vous avez jamais remarqué ça? Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Les couples chrétiens qui ne sont pas qui ne sont pas confirmés dans leur identité, homme ou femme. Il y a des combats dans les couples, il y a des conflits, il y a des tensions. Des fois, vous ne le voyez pas, mais vous voyez qu'il y a une stérilité. Il n'y a rien qui se produit. Il n'y a que des difficultés, des problèmes, vous ne savez pas d'où ça vient, enfin bref, ça tourne en rond, etc. Vous voyez, ben, c'est ça. Parce que chacun veut revendiquer une identité, alors que l'identité doit être complémentaire. Il doit y avoir une relation qui se produise à l'intérieur du couple. Alors, j'ai votre attention là ? Je survole un peu les choses, on pourra rentrer plus en détail. Mais ça, c'est absolument fondamental, que nous rentrions véritablement dans notre rôle et notre identité. La mère a un rôle, le père a un rôle dans sa masculinité, etc. Et l'ensemble de ces rôles sont décrits dans la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, le monde veut nous apprendre autre chose. Autre chose. Mais ce sont des choses qui vont pas donner de fruits, et encore en plus, vont amener, comme le disait De Gaulle, la chienlit. Hein ? Pourquoi ? Parce que ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Dans cette compréhension-là, à force de chercher l'harmonie, hein, et là on rentre dans la religion du Nouvel Âge, aujourd'hui, l'harmonie, c'est développement personnel. Moi, quand j'étais encore au travail, ça a commencé, mais je crois que maintenant ça doit exploser. Développement personnel, formation, développement personnel. Il faut se développer personnellement. Et voilà, voilà, développement personnel. C'est quoi ça ? C'est simplement développer votre ego. C'est tout. Parce qu'on n'a plus d'autres moyens, on n'a plus trouvé d'autres motivations que d'utiliser ce mot-là, développement personnel, ce qui fait que chacun va devenir égoïste à souhait. Et au lieu de créer une société qui est solidaire, une société qui effectivement est ouverte sur les autres, on va développer une société qui est fermée sur l'ego. Alors que là, ça reste toujours ouvert aux autres. Et des hommes et des femmes, des couples ou des personnes, même si elles ne sont pas mariées, qui sont bien dans leur identité, qui vivent dans leur identité, et ils peuvent vivre cette relation qui crée des choses extraordinaires, qui crée des projets, qui crée un avenir, qui crée un environnement dans lequel leurs enfants peuvent être bien, leurs amis, leur entourage, les projets qu'ils font, s'ouvrent vers l'extérieur et s'ouvrent dans une dimension telle que Dieu la veut. Amen. Amen. Je ne vais pas aller plus loin ce matin, parce qu'il faudrait rentrer plus dans certains détails, mais c'est la société dans laquelle nous sommes. Et c'est pourquoi Malraux, qui était un ministre de la Culture à côté de De Gaulle, qui a été pendant longtemps, il a dit « Le XXIe siècle ne sera pas où il sera spirituel. » Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Eh bien, il voulait dire ça. Il voulait dire « Le XXIe siècle, il n'y a pas que lui qui l'a dit, hein. » Et c'était rabâché. Et c'est ce que nous vivons. Depuis une trentaine d'années, nous vivons dans cette société qui veut nous envoyer des leurres, vous voyez, des choses qui n'existent pas, hein, des messages qui en fait vont exploser comme le feu d'artifice. Hein, c'est très beau, hein, c'est très beau les mots, c'est très beau, hein, l'harmonie, la joie, voilà, le citoyen du monde, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, tout ça c'est très beau, mais c'est creux, 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 creux. Ma sœur qui m'a dit, donc son ex-mari qui est au sommet de la formation, il dit c'est creux, mais c'est vide. C'est vide, c'est vide, c'est vide. Et moi quand je suis là, ils sont tous là à table, ils m'ignorent complètement. Ils ne savent même pas que je suis là, moi je les sers et tout ça. Vous voyez, c'est vide. Parce que ici, on ne peut rien mettre en pratique. Hein, rien mettre en pratique. Tout ce qui compte, c'est la connaissance. Connaître. Et à côté de ça, il a dit, c'est charnel, charnel, charnel. Ils n'arrêtent pas, les hommes entre eux, ils n'arrêtent pas de se critiquer, de se machin, etc. C'est pire que des femmes. Vous voyez, donc, on est arrivé à une soi-disant sagesse qui vous amène à une destruction des propres relations que vous voulez construire et que vous idéalisez et que vous imposez aux autres. Hein, vous voyez, même le Premier ministre impose à ses préfets d'imposer cette voilà, cette compréhension des choses. Vous voyez. Donc, on est allé très loin. Et on va encore plus loin. Donc il faut se préparer. Il faut préparer nos enfants. Et il faut que nous-mêmes soyons des modèles de cette image que Dieu veut pour nous, que nous soyons bien dans notre masculinité, dans notre féminité, pour que nous puissions donner une image, un reflet de Dieu dans nos vies et que ça donne envie. Hello? Ça donne envie? Parce qu'une des raisons pour laquelle la société aussi rejette, je ne parle pas des gens, des grands penseurs, des idéalistes, mais c'est une petite frange, hein, mais tous les autres suivent. Tous les autres suivent, et c'est ça le drame. Mais ils suivent souvent parce que l'Église ou les chrétiens ont donné une mauvaise image de Dieu. Et donc, ils ne veulent plus suivre ça. Et ça, c'est nous qui sommes responsables de montrer la bonne image que Dieu a pour l'être humain, pour la société et pour le couple. Et ça dépend de nous. Et c'est pourquoi notre vision, enfin ma vision slogan, j'ai dit « foi plus vertu égale maturité accrue ». Ça, c'est la vertu. La vertu, c'est d'être viril. C'est de manifester les valeurs du royaume. Mais pour manifester les valeurs du royaume, il nous faut être bien dans notre peau, tel que Dieu l'a prévu. Pour que nous ne soyons pas tout le temps dans les blessures, tout le temps dans le rejet, tout le temps dans des problèmes, mais que nous puissions exprimer cette créativité que Dieu a mise en nous, pour que nous puissions être forts en Jésus-Christ. Amen. C'est avec Jésus-Christ que nous pouvons remporter les victoires, à condition que nous soyons libres et réellement libres. Le Seigneur a dit, je suis venu pour vous donner la liberté, et la vraie liberté. Non pas celle qui est liée à une connaissance quelconque, mais celle qui est liée à une relation d'amour. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est vrai que nous vivons dans une société qui, sous nos yeux, est en train de se détraquer très très vite parce qu'il y a le rejet de ta parole. Mais Seigneur, nous te prions pour que nous-mêmes, qui sommes les porteurs de ta parole, nous puissions être conscients de ce qui se passe et, Seigneur, nous ressaisir afin que nous-mêmes, nous puissions donner la bonne image, le bon reflet de ta gloire. Seigneur, tu as dit que nous marcherions de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Seigneur, donne-nous ta grâce, afin que chacun de ceux qui sont présents ici puisse guérir dans leur personnalité blessée, dans leur masculinité ou féminité qu'ils n'ont pas pu complètement acquérir et ne l'auront jamais entièrement. Mais Seigneur, qu'ils puissent guérir afin de devenir ces hommes et ces femmes fortes, ces couples forts. Forts non pas à cause d'eux, mais à cause de l'image qu'ils vont refléter de toi. Seigneur, merci pour cette grâce que tu vas nous faire, que tu vas ensemble faire à ton Église, afin que dans ces derniers temps, Seigneur, nous puissions nous lever comme un seul homme, comme une armée, comme Ézéchiel 37 nous le rappelle, Seigneur. Parce que c'est cela, hein, la vraie armée, c'est celle qui manifeste ta gloire, et avec toi l'étendard qui est devant, que nous puissions suivre. Seigneur, nous te louons pour cela, nous te remercions de ce que tu as déjà commencé à le faire. Donne-nous tous l'humilité de reconnaître notre besoin de guérison, afin que nous soyons totalement saints, Seigneur, totalement renouvelés dans notre être tout entier, corps, âme et esprit. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.